Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Dieu, Seigneur, Christ, à l'antenne d'une radio chrétienne, l'on finit par prendre l'habitude de parler de Dieu comme s'il habitait la porte d'à côté, si vous me permettez cette familiarité. Pourtant, pour beaucoup, Dieu est un peu plus loin que cela, une personne, certes, ou plutôt un Dieu en trois personnes, mais quelqu'un de lointain que l'on croise dans les grandes occasions, ou dont on pressent l'existence de temps à autre. Mais Dieu peut-il faire partie de notre quotidien? Peut-on déceler sa présence jour après jour? C'est le pari que nous vous proposons à l'occasion d'une série de l'Avent, une sorte de grâce de Noël avant l'heure. Noël dans ma vie, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Noël dans la vie des auditeurs pour nous accompagner pour cette mini-série de l'Avent, puisque ça va être à l'occasion de trois lundis jusqu'aux prochaines fêtes de Noël. Une série d'émissions en partenariat avec les Coteaux Païs, qui sont ces centres jésuites dans le sud-ouest. On en reparlera et on leur fera le coup de pub et le coup de chapeau nécessaire autour du plateau. Honneur aux dames, Roselyne Liénard, vous êtes laïque, donc et accompagnatrice dans ces centres jésuites Coteaux Païs. Bonjour.
Bonjour.
Yves Stossel, vous êtes jésuite et accompagnateur dans ces mêmes lieux de formation et de retraite. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Éric Florin, vous êtes laïque et vous êtes membre de la communauté vie chrétienne CVX, qui est, on va dire, une des branches de la spiritualité jésuite, spiritualité ignatienne. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir répondu, donc, et merci aux Coteaux Païs d'avoir répondu à cette invitation et cette proposition. Yves Stossel, je commencerai par une question, on va dire, plus banale pour nous introduire. Vous savez, la radio, c'est toujours ça, hein, on alterne, on va dire, entre la tête et le cœur, on demande aux gens de parler à la première personne. Vous êtes jésuite, donc on imagine que ça fait quelque temps maintenant que vous avez une certaine habitude de la prière, mais quand vous revenez un petit peu dans vos années peut-être de jeunesse, vous aussi, à un moment dans votre vie où Dieu était, on va dire, présent, mais dans certaines grandes occasions, comme en pointillé, et vous n'imaginiez pas que ça pouvait faire, il pouvait faire partie de votre quotidien.
Oui, tout à fait. Y a une image qui me vient de mon histoire. Quand j'avais 8 ou 9 ans, lors de ma première communion, au moment de recevoir l'Eucharistie, la première fois, juste un peu avant, je me disais, bon Seigneur, moi j'en sais trop rien, je sais pas trop qui tu es. On me parle de toi, on me dit qu'avec toi je peux vivre quelque chose d'heureux. Bon, j'ai déjà l'une ou l'autre fois pratiquer un peu la prière, mais je fais un pari que peut-être ça m'apportera quelque chose, et donc je me suis dit, bah, je vais y aller, et puis on verra. Et je pense que c'était souvent le cas dans ma vie, de me dire, en fait, je ne sais pas trop, mais je vais y aller parce que je crois que il y a quelque chose qui se passe là, et qu'il y a une présence.
Est-ce à dire que vous êtes mis à la prière selon la spiritualité ignatienne à partir de vos 8 ans?
Non, un peu plus tard, parce qu'en fait, un peu plus tard, j'ai fait partie du MEJ, le mouvement eucharistique des jeunes. C'était la seule proposition dans mon village de 530 habitants, la moitié catholique, l'autre moitié protestant, puisque je suis alsacien. Une personne a proposé de cheminer dans le MEJ, et je suis entré dans le MEJ, qui est un mouvement de spiritualité ignatienne. Et puis, de fil en aiguille, voilà, j'ai avancé. Et c'est là que j'ai appris combien cette relation avec le Christ personnelle, donc vraiment personnel, pas quelque chose qui vient de l'extérieur, mais quelque chose d'intérieur, pouvait être un lieu de libération pour moi.
Et ça peut être une relation quotidienne?
Alors, oui, mais elle n'est pas toujours évidente à percevoir et à vivre, voilà.
Voilà, donc preuve en est que le défi lancé aux auditeurs est quand même de taille, mais en tout cas on va essayer de faire des premiers pas. Une autre question préliminaire, on en reparlera certainement au long des émissions, en tout cas je leur ferai de la pub avant chaque pause musicale, ou presque. Les Coteaux Païs, c'est centre jésuite dans le sud-ouest, alors ceux qui sont familiers de la spiritualité ignatienne connaissent très bien, les autres ne savent pas qu'il y a ce trésor dans notre région. Région élargie dans le pays du sud-ouest. Oui. Si vous deviez la présenter en quelques mots, qu'est-ce que c'est que ces centres jésuites?
Donc c'est un centre spirituel jésuite qui propose différentes activités, plus particulièrement des exercices spirituels, sur l'ensemble du sud-ouest, de Bordeaux jusqu'à Perpignan. on est un centre spirituel délocalisé, c'est-à-dire qu'on va dans les monastères des environs pour proposer soit 3 jours, soit 5 jours, soit 8 jours, soit 10 jours d'exercice spirituel, donc les retraites selon les exercices spirituels. On propose aussi des formations à l'accompagnement, des formations à l'écoute tout au long de l'année pour des personnes qui sont soit qui désirent elles-mêmes davantage affiner leur écoute, leur manière d'écouter, pour les personnes qui sont dans la pastorale familiale ou dans la pastorale des aumôneries d'hôpitaux ou de l'écoute dans les paroisses, ou bien des personnes qui nous sont envoyées par des institutions pour les former à l'accompagnement. Et donc c'est un petit peu une formation plus poussée.
Voilà, preuve que vous êtes des spécialistes puisque vous formez vous-même les accompagnateurs. On peut dire aussi donc, que c'est destiné à tout public, hein, jeune ou plus âgé, qu'on soit célibataire, en couple, religieux, consacré, etc. On reviendra sur différentes formations. Alors si on doit se lancer donc, le début de cette série, donc aujourd'hui, on va parler tout simplement donc de la prière pour essayer de voir selon la spiritualité ignatienne. Donc spiritualité ignatienne, ça vient donc de Saint Ignace de Loyola, pour ceux qui ne le sauraient pas, fondateur donc des jésuites. C'est une manière de prier parmi les autres. Comment vous la caractériseriez cette spiritualité, cette grande famille ? Yves, je te seul.
Alors comme vous l'avez dit, c'est une manière de prier parmi d'autres. Donc elle est une aide pour la vie, pour la prière et pour la vie de tous les jours. En fait, elle est le fruit de l'expérience d'Ignace, d'une expérience personnelle spirituelle, mais aussi de son rapport à toute l'histoire de l'Église, puisque au moment où il vivait sa conversion, Ignace, à un moment donné, voulait faire comme Saint François, faire comme Saint Dominique. Et donc cette prière ignatienne, elle est le fruit à la fois de l'expérience personnelle d'Ignace de Loyola et de la tradition chrétienne dans son ensemble.
Donc on peut cultiver une relation personnelle. La fine pointe en fait de cette spiritualité, oui. C'est que vous me le disiez en préparant l'émission, et puis je l'avais déjà entendu, c'est qu'en fait Jésus peut devenir un ami. Jésus... Alors, ça peut paraître un horizon bien lointain pour certains, mais c'est en tout cas le but ultime.
Oui, alors effectivement, et puis dans cette période de Noël, je pense que ça fait écho avec le mystère de l'incarnation, c'est-à-dire que le Christ n'est plus un Dieu qui est très loin et qui peut-être parfois semble très difficile à atteindre, mais il se donne à nous à travers une personne, on peut le rencontrer à travers cette relation qu'on peut nouer avec le Christ, une relation personnelle. Et comme le dit Ignace, il nous propose toujours à la fin de toutes nos oraisons d'échanger avec le Christ comme un ami parle à un ami. Voilà, donc c'est quelque chose d'une relation très intime. Et je dis souvent à des personnes qui veulent rencontrer le Christ, il ne s'agit pas d'imiter le Christ, mais dans cette connaissance intérieure qu'on a de lui, donc vraiment une connaissance comme deux amoureux qui se connaissent finalement et qui, à partir de cette connaissance, vivent l'un de l'autre et pas d'une connaissance extérieure.
Saint Ignace de Loyola, semble-t-il, a une grâce particulière. Il a particulièrement pris conscience du mystère de l'incarnation. C'est souvent le cas des grands saints. Vous parliez de Saint François d'Assise tout à l'heure et c'est aussi lui une grâce qu'il a reçue. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de cette grâce et de la manière dont ça irrigue la spiritualité ignatienne ?
Oui, donc en fait Ignace a fait une expérience mystique très forte à Manresa en Espagne lors de son chemin de conversion. Il a pris conscience de l'importance inouïe du mystère de l'incarnation. En Jésus, Dieu se fait homme. Pour lui, c'est devenu quelque chose de très fort intérieurement. Et pour lui, Dieu aime tellement l'humanité qu'il veut la rencontrer dans son humanité même. C'est-à-dire qu'il vient vraiment à côté de nous. C'est que Dieu aime ce monde et sa création.
On a trace dans ses écrits comme ça de cette grâce, je veux dire, c'est
oui.
Quelque chose qu'il a...
Entre autres, dans le récit le récit du pèlerin, qui est un petit peu son autobiographie, même si c'est un de ses secrétaires qu'il a recueilli des paroles à la fin de la vie d'Ignace. Mais c'est à travers ce récit du pèlerin qu'on peut découvrir un peu toute la manière dont Ignace a pris conscience de cette relation vraiment de proximité que Dieu veut vivre avec tout humain.
On va essayer donc maintenant de rentrer dans le vif du sujet après ces différentes introductions, donc de se projeter par exemple dans, on va dire, presque à la crèche, d'essayer de voir comment ça, Dieu peut nous parler directement. Alors la première chose sur laquelle vous insistez, c'est l'importance de l'écoute. J'ai souvenir récemment d'un invité qui avait cité un philosophe, j'oublie son prénom, monsieur Chrétien, Jean-Louis Chrétien, pardon, oui. Qui disait que la première des politesses, la première des délicatesses dans toute amitié, c'est d'apprendre à écouter. C'est en tout cas l'étape d'entrée, c'est comme le narthex de la prière ignatienne.
Oui. En fait, si la visée de la prière est un dialogue, une parole échangée, elle est précédée par un temps d'écoute. Écoute de la parole de Dieu, écoute des cris du monde, écoute de mon propre cœur, écoute de l'esprit en travail au cœur du monde. Alors pourquoi cette écoute? Parce que ça me permet de me décentrer. L'écoute m'oriente vers un autre, vers autre chose. Et c'est cette écoute-là qui va permettre de me décentrer et d'accueillir le monde, la vie, à la manière dont Dieu veut nous le transmettre et dans le sens d'une plus grande vitalité, d'une plus grande confiance dans la vie, d'un plus grand accord avec l'ensemble de notre vie et de l'humanité.
Donc il faut déjà être décidé à se taire et à prendre du temps pour écouter.
C'est exactement,
sine qua non.
Et puis on se rappelle dans l'Ancien Testament le Shema Israël, donc écoute Israël, c'est la première parole que Dieu adresse à l'homme.
Alors jusque-là, pas de différence avec ce qu'on avait pu entendre du côté des Carmes, qui est une autre grande école, on va dire, de la prière personnelle. On avait fait une série avec eux, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, pour rentrer dans l'oraison. Peut-être une particularité de la spiritualité ignatienne, c'est l'importance des mouvements intérieurs. Toujours dans cette partie introductive, un peu sur la prière, avant qu'on regarde plus concrètement comment ça se vit avec Rosine Liénard, et à la fin qu'on entende le témoignage de Jean-Éric Florin. Qu'est-ce que c'est que ces mouvements intérieurs, Yves Stossel?
Alors ces mouvements intérieurs sont liés à notre désir profond, c'est-à-dire que grâce à l'attention au mouvement qui nous habite et qui habite en chacun d'entre nous, la dynamique de notre désir, la force et le contraste des images peuplant notre imaginaire, l'expérience de la tristesse et de l'allégresse éprouvées affectivement sont des points essentiels dans notre spiritualité. En fait, pour nous, ignatiens...
C'est-à-dire ce qu'on ressent, en fait, ça fait partie de notre vie spirituelle.
C'est en partie ce qu'on ressent, mais en essayant d'affiner parce qu'il y a un discernement à faire. On a plusieurs mouvements en nous, des mouvements qui nous viennent de pensées qui, d'après la tradition ignatienne, viennent du bon esprit, soit, comme l'appelle Ignace de Loyola, l'ennemi de la nature humaine. Et donc, en fonction de ces pensées, il y a soit de la tristesse, soit de la joie qui nous traverse. Et c'est important de voir d'où est-ce que viennent ces pensées pour aller dans le sens de la vie, c'est-à-dire dans le sens du bon esprit.
C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que le soir, justement, quand on se pose, si on fait un temps de relecture de la journée, on peut arriver à classer gauche-droite, bon et mauvais camp,
Alors,
utiliser une autre terminologie ignatienne, ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas, c'est...
Alors, vous dites aussi simple que ça, certainement pas. C'est toute une vie, c'est le chemin de toute une vie. En fait, c'est aussi, justement, comme vous le disiez tout à l'heure, passer de la tête au cœur et entendre ce qui se passe dans le cœur. Donc ça, c'est parfois le chemin le plus long, passer de la tête au cœur.
Parce que Dieu parle par le cœur, c'est bien ça.
Parce que Dieu parle par le cœur avant tout. Voilà. Après, on a utilisé notre intelligence pour davantage le comprendre, mais il parle d'abord à partir du cœur. Oui.
Que faut-il préciser encore en introduction de la spiritualité ignatienne, Yves Stossel? Vous vouliez dire peut-être aussi la place de l'esprit ou la manière dont il travaille. Est-ce que c'est particulier à cette spiritualité ou qu'est-ce qu'il y aurait à dire de particulier à propos d'elle?
Oui, en tout cas, ce qui est important, c'est que dans notre manière de prier, on n'est pas seul et la prière nous est donnée. C'est-à-dire, on pourrait se dire, tous les matins, je vais me prendre par la main et puis je vais rencontrer le Seigneur et puis je vais lui raconter ce qui m'arrive. Alors, bon, bien sûr, on peut le faire, mais la prière, c'est avant tout un don. C'est-à-dire que quelque part, on a à aller jusqu'à demander la grâce de recevoir cette prière et notre présence. Là encore, pour s'abandonner et suivre la volonté du Père, mais qui se dit à travers notre désir profond, et c'est pour ça qu'il faut écouter nos mouvements intérieurs. Mais c'est avant tout un don, Et c'est important de laisser l'esprit nous travailler et d'être ouvert à cet esprit.
Donc vous êtes dans votre chambre le matin, vous êtes dans votre voiture, vous accompagnez vos enfants à l'école. Voilà, si vous jetez, on va dire, votre cœur et votre pensée vers Dieu, à entendre nos invités de ce matin, lui aussi fait le chemin depuis le ciel pour vous rejoindre. On aurait pu dire aussi que l'importance des fruits, mais on y reviendra. Le fruit de la prière, c'est l'augmentation du désir de vivre, de notre confiance dans la vie et de l'amour que l'on peut avoir pour les autres. On va faire une première pause et puis on va rentrer un petit peu plus encore dans le vif du sujet, puisque une des particularités de cette spiritualité, c'est que vous avez comme une espèce de méthodologie pour rencontrer Dieu. On appelle ça même des exercices. On fait une première pause et on vous retrouve.
Emmanuel Pella.
Noël dans ma vie, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Première émission d'une courte série de l'Avent. On commence avec un tout petit peu de retard, mais ça n'enlève rien à l'intensité de cette série. Série qui a été montée en partenariat donc avec les Cotopaïs et centres jésuites dans le sud-ouest. Apprendre à discerner la présence de Dieu dans sa vie, voire même à ce que Dieu devienne tout proche, à devienne un ami. C'est en tout cas ce que nous disait Yves Stossel donc au début de cette émission. Jésuite, accompagnateur dans les centres jésuites Cotopaïs, qui est autour du plateau, avec Roselyne Liénard, elle laïque dans ces mêmes centres, et Jean-Éric Florin, laïque et membre de la communauté Vie Chrétienne CVX. Roselyne Liénard, on va passer maintenant à la partie pratique, avant d'avoir la partie témoignage à la fin. Voilà, les choses sont très bien organisées, n'est-ce pas? En tout cas, on espère que cette pédagogie aide les auditeurs. La première chose que vous vouliez souligner, c'est souvent ce qu'on répète et ce qu'on répète à l'envi à l'égard de la prière, c'est qu'il ne faut pas se décourager, mais que voilà, ça s'apprend la prière. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce sujet? Est-il normal de se sentir un peu les bras ballants devant la prière?
Oui, c'est normal pour certaines personnes. Il y en a qui se contentent, qui arrivent à rencontrer le Seigneur en disant « je suis là » et qui se posent et qui nous rencontrent. D'autres se disent qu'ils ne savent pas prier et finalement la proposition ignatienne, c'est de donner une petite méthode pour justement organiser un petit peu la prière pour arriver à une rencontre personnelle avec le Christ. Donc on peut désirer apprendre plutôt que fuir.
Voilà, bonne nouvelle. Donc chez vous, on appelle ça les exercices spirituels même. Est-ce à dire, dit exercice, dit on imagine tout de suite lever de genoux, jambes en avant comme à l'athlétisme. Y a-t-il une méthodologie, on va la découvrir. Mais en tout cas, vous vouliez souligner le fait que ça demande de l'entraînement, c'est ça?
Oui, ça demande un peu d'entraînement pour oublier les règles de l'exercice. La danseuse qui apprend, elle apprend quelques règles, puis elle oublie la méthode et elle s'exprime. Donc ici, j'oublierai les règles au bout de quelques temps pour favoriser évidemment la rencontre.
L'autre chose, peut-être d'autres questions dans le préambule, c'est est-ce qu'on peut vraiment le vivre quotidiennement et est-ce que c'est pas une méthodologie un peu trop, on va dire, cérébrale? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ces deux sujets ou ces deux interrogations?
Oui, il y a effectivement une connotation cérébrale. On le dit quelquefois que les exercices touchent plus le mental qu'autre chose, surtout quand on ouvre le livre des exercices, c'est un peu rebutant. Et en fait, quand on approche un peu la spiritualité, on s'aperçoit que ce qui est visé, c'est quelque chose qui touche la personne complètement, c'est-à-dire par l'intellect, c'est vrai, la mémoire, l'intelligence, la volonté, mais surtout, le but, c'est toujours d'aller au cœur de la rencontre, c'est-à-dire que petit à petit, c'est la personne tout entière qui est concernée et impactée par la parole dans ce type de prière.
Alors, on va partir du principe que voilà, les auditeurs se décideraient donc à prendre un temps tous les jours. Un temps, on va dire, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Si on rentre dans le vif du sujet, donc chez vous, on appelle ça, il y a deux formes, donc la méditation et la contemplation. Commençons par la méditation. La première chose, Roselyne Lienard, c'est que quand on ouvre un temps de prière, bon, déjà, il faut trouver un lieu, un cadre, probablement un peu de silence, une icône, une image. Qu'est-ce qu'il y a comme préambule? On dit bonjour, c'est ça? Même si on n'est pas sûr qu'il y a quelqu'un au bout du fil.
On demande surtout la présence de l'esprit. Ce que Ignace appelle la prière préparatoire, c'est une prière pour se disposer à prier. C'est un temps qui est une disposition intérieure qui va permettre ensuite d'être à l'écoute davantage.
Alors concrètement, ça veut dire quoi? Donc vous avez fermé la porte de votre chambre et
oui.
Vous dites quoi du coup? Vous dites.
Eh bien, je demande à l'esprit d'être présent, de m'inspirer, d'être vraiment le souffle qui va me donner la possibilité d'entrer dans la parole que je vais méditer.
Yves Stossel, vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui, je peux simplement lui demander d'ouvrir mes yeux, mon cœur, mon intelligence, ma parole à ce que je vais entendre et ce que je vais méditer comme texte biblique.
Voilà, l'Esprit, c'est donc l'Esprit Saint, hein, pour ceux qui ne sauraient pas. Donc ça, c'est l'avant, donc il y a une manière de rentrer. Est-ce que vous voulez préciser peut-être une ou deux choses? Faut-il avoir, par exemple, choisi un texte précis, partir de la liturgie du jour?
Par exemple, ça peut être la liturgie du jour, bien sûr, ça peut être un autre texte. La méthode est la suivante, à savoir que il faut se mettre dans la tête qu'une prière, on nous le dit souvent, il y a un début et une fin déjà. Et un support, c'est la parole. Et petit à petit, on détaille un petit peu ce début, je dis avant, on se dispose intérieurement, puis on va faire ce que Ignace appelle une composition de lieu. Je prends un exemple dans l'évangile de Marc, la scène où Bartimée, l'aveugle, donc est dans la foule.
Donc c'est un aveugle qui crie vers Jésus.
Il va crier vers Jésus.
Il est un peu repoussé par les apôtres.
Il est rabroué.
Voilà.
Et puis lui va s'imposer par le cri. Donc je vais faire une composition de lieu. Ça signifie quoi? Que moi j'imagine vraiment la scène c'est là où j'entre dans l'incarnation totale. Hein. Je suis dans la foule. Il y a du monde autour de moi. J'entends, j'éveille mes sens. J'entends le bruit de la foule. J'entends, je sens les odeurs. Je suis bousculée. C'est-à-dire là, tous les sens peuvent être éveillés. Parce que quand j'entre dans la scène, je plante le décor et je m'approche de Jésus. Et j'essaie là de prendre goût à cette scène dans laquelle il va se passer quelque chose. Donc j'ai l'avant et dans ce lieu-là, je vais également demander une grâce. Il n'y a pas de prière sans demande. Hein, je veux dire. Donc, quelle est la grâce que je peux demander à un moment donné? Eh bien, est-ce que moi, je vais pouvoir oser demander quelque chose à Jésus, par exemple?
Alors, la grâce, on se dit quoi? On se dit qu'on se fait confiance et quand on se met en prière, après avoir lu le texte, la grâce vient d'elle-même parce que justement, on a invoqué l'Esprit.
Mais moi, je demande à Dieu ce que je veux et désire, nous dit Ignace. Ça peut être justement d'oser l'appeler, sortir de ma tiédeur, sortir de. Je peux m'installer, comme le Bartimée, m'asseoir sur le trottoir, laisser passer la foule, essayer de me lever, mais être rabroué, de me dire, oh bon, et bien, puisque c'est comme ça, je reste là et je fais autre chose.
En tout cas, on se fait confiance quant à la grâce qu'on est en capacité de demander à ce moment-là.
Voilà.
Pas besoin d'être baptiste pour avoir l'idée
exactement,
d'une
grâce. Exactement, mais j'ai un besoin, j'ai un désir intérieur. Et ça, c'est, dans la spiritualité ignatienne, j'exprime mon désir.
Donc, par exemple, la grâce, en l'occurrence, Dieu, demander à Dieu ce que je souhaite et ce que je désire.
Voilà, ce que je veux désirer.
Oui. Alors ça, c'est l'avant. Maintenant, le pendant, donc la méditation, comment on s'y prend? Semble-t-il, la manière ignatienne, c'est de s'arrêter sur deux, trois points clés
deux,
dans le texte, c'est ça?
Deux, trois points, ou un seul, celui dans lequel j'ai du goût, c'est ce que nous dit Ignace. Celui qui me parle, qui me rejoint dans ma vie.
C'est-à-dire, on prend le texte et on se dit, tiens, là, il y a trois passages qui me parlent, du coup, ça va être les trois moments où je vais m'arrêter dans ma
par
méditation,
exemple,
c'est ça?
Voilà, ça peut être un, ça peut être deux, ça peut être trois, effectivement. Je vous dis, quand Jésus passe et que Bartimée l'entend, je peux moi m'installer et être touchée par ce qui va se passer. Je me dis, est-ce que moi dans ma vie, est-ce que j'en suis au point où je vais avoir envie de me lever pour appeler ou je reste là? Et à ce moment-là, je fais agir ma mémoire et me dire, oui, il m'est arrivé à certains moments de ne pas oser. Mais aujourd'hui, là, je regarde ce que fait Bartimée. Je m'approche de lui et je me mets dans cette disposition en me disant, non, voilà, je me suis mise à prier, j'essaie de trouver là le lieu pour rencontrer Jésus. Je sens que la parole me travaille et je vais me mettre debout. Non, j'ai décidé de crier comme lui. J'espère.
Donc ça, c'est par exemple, on s'arrêterait sur un premier passage qui laisse entendre cette attitude de Bartimée.
Voilà, je décide de crier vers lui.
Et puis après, on en choisirait donc un deuxième de passage, c'est ça?
Eh bien, je peux en choisir un autre. C'est celui dans lequel, lorsque Jésus sait, dans la foule, trouver celui qui a le désir, vraiment. Il sait le trouver, il sait entendre lui dans la foule. Et de me dire, mais moi, si je lui parle, il va m'entendre. Et à ce moment-là, j'aimerais être Bartimée, moi, bondir, et jeter mon manteau. Et là, je me dis, jeter quelque chose. Qu'est-ce que je peux jeter qui m'encombre dans ma vie, qui m'a empêché de prier tel ou tel moment où je pensais pouvoir le faire? Qu'est-ce que je jette? Et je m'interroge sur ma propre vie. C'est-à-dire que la parole me rejoint dans la vie, là où j'en suis, je me dire, ben, peut-être que là, ben, il faut que j'arrête de rabâcher, ou que j'arrête de me servir de mon téléphone du matin au soir, ou d'être sur l'ordinateur, ou de regarder un peu trop des séries télévisées, etc. Je veux dire, qu'est-ce que je jette de ma vie pour m'alléger et aller vers la rencontre?
Alors juste, Roselyne Linaire, pour bien comprendre, donc il y a l'avant, le pendant, vous êtes en train de nous le décrire, mais je vous le redemande, cette demande de grâce, et après trouver deux, trois points clés donc, qui nous parlent dans le texte qu'on médite, on n'a pas besoin de trouver un manuel de spiritualité ignatienne qui va nous aider à trouver les passages. En fait, on se fait confiance, mais le critère, c'est quoi? Le critère, c'est ce qui nous plaît, c'est ce qui nous parle au cœur, c'est ce qui nous met dans la joie. Comment vous préciseriez le...
Eh bien, je ne sais pas forcément à l'avance ce qui va se passer en moi, mais je le sens à ce moment-là. Le critère, ça sera surtout d'être attentif à ce que je reçois. Il y a un état de veille, si vous voulez, et d'entrer dans la prière où je n'ai plus vraiment, moi, la maîtrise, mais la parole m'interpelle. Et à ce moment-là, je sens qu'elle fait bouger quelque chose en moi. Elle me rejoint dans ma vie, mais elle me rejoint dans mon cœur, elle change quelque chose. Yves parlait tout à l'heure des mouvements intérieurs. Si elle me remue au point de me donner un élan intérieur, ça je vais le mettre en mémoire, et je sens que ça me travaille dans le cœur et au fond de moi, et que la parole à ce moment-là me nourrit.
Yves Stossel, juste j'avais une question pour revenir aussi un peu sur la première partie. On peut avoir l'idée qu'en fait, rentrer en relation avec Dieu, c'est au contraire faire fi de soi-même et puis faire fi de ses mouvements intérieurs. Il peut y avoir quelque chose un petit peu de déroutant dans cette proposition de la spiritualité ignatienne, qui est au contraire de se dire, bon ben, ce qui me touche, en fait, c'est aussi ce par quoi Dieu va me parler. C'est comme ça qu'il faut le comprendre.
Oui, alors en fait, quand on dit que...
Qu'est-ce qui fonde un peu cette idée chez Ignace ?
Oui, alors en fait, quand on dit que on pourrait faire fi de soi, c'est pas dans le sens où il faut s'oublier, mais c'est dans le sens où ne pas se mettre en premier. Et donc, comme on écoute d'abord la parole de Dieu, la première des choses qu'on fait, c'est on fait confiance à la parole. Et ensuite, on regarde comment ça nous touche.
On est naturellement décentré.
On est naturellement décentré en nous mettant à l'écoute de la parole. Et c'est ça, faire dans un premier temps fi de soi. C'est-à-dire ne pas tout de suite projeter ses propres idées ou ses propres pensées sur la parole, mais d'abord l'écouter. Voilà.
Précision importante. On va finir, on clôt donc la partie méditation. Roselyne Liénard, à la fin, on fait quoi ? On retire de ça un point particulier ? Comment on sort de ce temps de prière ?
Oui, eh bien, je vérifie entre le moment où j'ai demandé une grâce d'être présent, le moment où j'ai reçu quelque chose qui m'a fait bouger et dont je garde la mémoire, eh bien, je vais m'adresser directement au Christ. Hein, comme on parle à un ami, Yves le disait tout à l'heure, en disant...
Même si la relation est, on va dire, balbutiante, naissante.
Oui, et même si
c'est rien. On saute dans le vide et on. D'accord.
Même si c'est rien passé et que j'en ressors triste et que je n'ai pas reçu ce que j'aurais aimé vivre, être touché au cœur. Mais je peux le dire parce que c'est ce qui s'est passé. Je ne mens pas. En vérité, je me dis, voilà, ce que j'ai vécu, je peux ou remercier ou dire, ben, une prochaine fois, je vais essayer d'être un peu plus présent. C'est la fin de la prière. Et ensuite, bien, je vais faire mémoire de ce qui s'est passé dans ma prière. Alors, pendant une retraite, je prends des notes, c'est ce que je vais dire à l'accompagnateur, mais quand je suis chez moi, j'en garde de mémoire, hein, et j'essaie de, une prochaine fois peut-être, d'être un peu plus débarrassé de moi-même pour être agi par la parole. Oui.
Allez, je vais faire un récapitulatif, parce que pour vous, c'est, on va dire, c'est du béaba, mais c'est bien d'essayer d'être le plus pédagogue possible. Donc, méditation, je le redis avec mes mots, et puis on aura l'occasion peut-être de revenir dessus. Je trouve un endroit, je choisis un temps, je prends un texte, une demande de grâce. Après, je m'arrête sur 2-3 points clés donc, dans le texte qui m'ont parlé. À la fin, je parle avec mon cœur en me jetant dans le vide et en parlant à cette personne qui est le Christ et qui m'entend, à vous entendre, et on l'espère. Et puis, conclusion, je dis au revoir, tout simplement. Éventuellement, je prends une ou deux notes. Alors, il y a une autre grande manière de rentrer dans la prière ignatienne. Je ne sais pas si c'est une nuance ou si c'est une grande différence. C'est la prière de contemplation. Pour commencer, pour essayer que les choses soient claires, comment vous feriez la différence méditation, contemplation, on peut s'y perdre, Roselyne Liénard. Y a-t-il, c'est quoi, c'est deux familles de prières,
non,
ou c'est deux méthodes ?
Ce ne sont pas deux méthodes, mais l'axe n'est pas le même. Dans la méditation, disons que je laisse la parole me percuter intérieurement, me toucher, me faire vivre. Dans la contemplation, mais je contemple la vie du Christ, le mystère de sa vie, les mystères que propose Ignace, hein, annonciation, nativité, etc. Parce que c'est lui, à ce moment-là, que je regarde. Si vous voulez, il y a un mouvement dans la méditation de la parole vers moi. Dans la contemplation, c'est plutôt moi vers lui à ce moment-là. Et je regarde et, en me disant que lui, parce que je le regarde faire, s'incarner notamment, il va me toucher et me transformer. Parce que là, je fais appel davantage aux sens, puisque Ignace fait appel aux cinq sens. C'est toute la personne ici qui est présente, qui se laisse transformer. Parce qu'elle est, si vous voulez, quand je fais cette contemplation, je suis tellement proche.
Prenez un exemple, juste pour qu'on comprenne. Alors, prenez un exemple.
Je propose la nativité
en l'occurrence.
Voilà, dans Luc. Hein. Alors, la méthode extérieure, si vous voulez, avant, pendant, après, reste la même, hein, les temps de la méditation. Mais cette fois-ci, je cherche, si vous voulez, à approcher ce mystère, ce qui m'est révélé de ce qu'a voulu le Christ en s'incarnant. Donc, je vais voir la crèche, par exemple. Je fais appel à la vue. je compose le lieu, mais je peux y être aussi. Et je peux, si je suis un des personnages présents, notamment le petit pauvre qu'ajoute Ignace dans ce mystère de la contemplation, me dire, mais moi je suis le personnage qui va aider discrètement à la naissance. Je prépare cette scène à contempler et j'entre dans la scène. Je suis quelqu'un et je vais voir. Et voir de façon de plus en plus précise. Si vous voulez, quand je vois le nouveau-né, je vais voir la taille du nouveau-né, je vais voir la couleur de sa peau.
On va sentir l'odeur de l'étable aussi.
Exactement, être présent. Dans les premières contemplations, c'est voir et entendre, mais effectivement, on ajoute les autres sens. C'est-à-dire que je suis immergée dans la scène et partie prenante pour m'approcher de la personne du Christ. Et là, il entre dans ma vie et j'entre dans la sienne, c'est-à-dire que cette fragilité que je vais découvrir, qui peut m'émouvoir, je me dis, mais là, il y a un temps aussi, bien sûr, où l'intellect va fonctionner, mais je suis tellement présent que je m'émerveille, mais de voir quoi ? Que ce petit être totalement dépendant et fragile, c'est Dieu incarné, qui s'incarne pour moi, et ça me trouble, ça m'émeut, je me laisse agir par ça. C'est une façon, de prendre connaissance de ce mystère, de l'incarnation.
Yves Stossel, si vous deviez juste apporter une précision, méditation, contemplation, pour qu'on comprenne bien la différence.
Oui, je dirais que c'est aussi quelque chose qui est au niveau de nos facultés. On a des facultés, l'intelligence, la mémoire. La mémoire, c'est comment est-ce qu'un texte vient me rejoindre au niveau de ma propre histoire. La contemplation, c'est vraiment contempler une scène, regarder ce qui se passe, regarder ce que disent les personnages, ce qu'ils font, ce qu'ils sont. Voilà. Donc j'utilise davantage mes sens pour la contemplation et davantage mon intelligence, ma mémoire pour la méditation.
On va faire une deuxième pause et puis on va retrouver nos invités pour avoir une partie plus, on va dire, encore plus incarnée avec le témoignage de Jean-Ric Florin qui s'est mis à la prière il n'y a pas si longtemps que cela et qui l'a découverte de manière, on va dire, très simple ou en tout cas qui peut parler à beaucoup. On vous retrouve dans quelques instants.
Présence à ASP 94.1.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Noël dans ma vie, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, pour ceux qui par hasard nous rejoindraient maintenant. Autour du plateau, Roselyne Liénard, qui est laïque et accompagnatrice dans les centres Coteau-Païs, centre jésuite dans le sud-ouest, Yves Stossel, jésuite et aussi accompagnateur dans ces centres, est Jean-Éric Florin, laïc, et membre de la communauté vie chrétienne CVX. Juste un petit mot, Yves Stossel, vous vouliez ajouter quelque chose en introduction du témoignage de Jean-Éric Florin. À vous entendre, en fait, ou en tout cas ce qu'il faudrait comprendre derrière toutes ces interventions, c'est que pas de panique si Jésus ne devient pas, on va dire, un hologramme du jour au lendemain dans notre vie. En fait, c'est normal, ça marche comme par effet de miroir. Petit à petit, en fait, on finit par connaître le Christ, et c'est d'abord ce à quoi invite cette pédagogie.
Voilà, tout à fait. C'est toute cette pédagogie, tous ces moyens qui sont mis en œuvre ne sont que des moyens, ce ne sont pas des fins. La fin, c'est cette rencontre avec le Christ qui va se faire petit à petit. C'est pour ça qu'on appelle ça des exercices spirituels. Quand un coureur commence à courir, il va d'abord s'exercer pour pouvoir après vraiment être, comme disait aussi Roselyne par la danse, être libre. Et c'est cette connaissance intérieure du Christ qui est visée. Quand on sent un peu ce qu'il a vécu quand il était enfant, quand il est devenu adulte, quand on arrive à mieux sentir intérieurement quelles sont la manière dont il est en relation avec les autres, ses attitudes, voilà, ça devient quelque chose de presque naturel ou co-naturel à nous-mêmes. Et là, l'esprit va nous travailler d'une façon naturelle en dehors de notre volonté, je dirais presque, voilà, ou avec notre volonté.
Jean-Éric Florin, alors vous, donc, vous fréquentez depuis un certain nombre d'années la spiritualité jésuite, puisque vous êtes membre de la communauté vie chrétienne CVX, donc depuis 1991, mais vous vous êtes mis à la prière assez récemment. Expliquez-nous peut-être le déclic, et puis après donc les modalités, la manière dont vous avez mis ça en place petit à petit.
Alors, mis à la prière quotidienne.
Quotidienne, pardon.
Plus récemment. À la prière, j'avais eu des expériences, puisque ça fait partie des propositions de la communauté vie chrétienne. Mais il n'y a pas très longtemps que j'ai découvert une application sur mon téléphone, qui s'appelle Prie en chemin, qui donne tous les jours un texte, donc un des trois textes du jour, et qui propose des méditations ou des contemplations, comme ça a été expliqué précédemment.
Alors vous, donc, vous aviez des temps morts et vous vous êtes dit un jour, pourquoi pas les utiliser, c'est ça ?
Moi, j'ai commencé par utiliser cette application en disant c'est génial, je vais pouvoir mettre mes oreillettes et écouter ça dans le métro, ou à un moment où en fait je fais autre chose et je pourrais prier en même temps. Et donc mon intuition initiale, c'était que j'allais gagner du temps et que j'allais pouvoir cocher la case prière sur mon emploi du temps déjà bien encombré. Et donc j'ai fait ça pendant un certain temps, mais je me suis aperçu que c'était pas tout à fait ajusté. Et c'est-à-dire que, d'une part, dans le métro, il y a une dame qui parle au haut-parleur pour annoncer les stations, il y a des gens qui montent, qui descendent, donc les conditions, on va dire, sont pas vraiment idéales pour être recueillies. Et d'autre part, pour moi-même, c'était pas tout à fait ajusté. Parce que c'était une manière d'utiliser un sous-produit pour mon temps avec Dieu. Je sais pas comment le dire. Et donc, il n'y a pas très longtemps que j'ai décidé de faire autrement, c'est-à-dire de vraiment consacrer ce quart d'heure quotidien en m'isolant dans la maison, en m'arrêtant dans une église ou en trouvant un endroit plus calme, et de consacrer 100% de ce temps à Dieu. Et vraiment, j'en suis heureux.
Alors, qu'est-ce que cette méthodologie, ces exercices, cette manière donc de se poser, de dire bonjour, au revoir d'une certaine manière, je caricature, mais c'est, vous comprenez l'intention, cette demande de grâce, de se poser dans différents... Bref, qu'est-ce qui vous parle dans la spiritualité ignatienne, pardon, et fait que vous avez, entre guillemets, choisi un peu cette famille de prières ?
En fait, je crois que ce que je cherche, ce sont des choses qui m'aident. Et donc, j'essaye de trouver les moyens qui vont m'aider dans mon désir de rencontrer Dieu. Oui, il faut que ça marche, mais ce n'est pas forcément tout à fait intuitif. J'ai une petite histoire qui a été importante pour moi à ce propos. Quand j'étais plus jeune, je faisais du bateau, du voilier. Et il y a un truc important sur un bateau, c'est de ne pas tomber à l'eau. Et donc il y a des moyens qui sont proposés, ça s'appelle une ligne de vie. En fait, c'est un filin qui va du nez du bateau jusqu'à l'arrière, et sur lequel on peut s'accrocher pour éviter de tomber. Et moi, j'aimais pas du tout cette idée d'être accroché. Et donc, je refusais de mettre la ligne de vie en pensant que j'étais assez fort, assez rapide, assez agile, assez malin pour m'accrocher quelque part et ne pas tomber à l'eau. Et un jour, il y a un chef de bord qui m'a dit « Écoute, c'est très simple, la sécurité, c'est mon problème. Donc, soit tu mets la ligne de vie, soit tu débarques. » Je n'avais pas envie de débarquer, j'ai mis la ligne de vie. Et en fait, de cette contrainte apparente, à partir du moment où j'ai mis la ligne de vie, j'étais accroché, j'ai découvert une liberté qui est que je ne suis pas obligé de penser tout le temps à la manière dont je m'accroche parce que je sais que j'ai la ligne de vie. Et donc, au lieu de trouver une contrainte, un cadre qui me gênait, j'ai trouvé un cadre qui me libérait. Et donc, cette image, elle me parle par rapport à ce qui a été expliqué hein, sur les méthodes, la méthodologie, le cadre qui est proposé par Ignace pour prier. C'est qu'au lieu de rentrer dans un système de contraintes, je rentre dans un système de liberté. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas tout à fait intuitif, parce qu'il faut trouver la manière qui me va, et peut-être qu'elle dépend pour chacun, bien évidemment, la manière qui me va pour avancer un petit peu. Et dès que cette histoire de pris en chemin, pour moi, c'était vraiment éclairant, et ça m'a fait avancer, parce que ce cadre m'aide.
Alors, si vous voulez bien, on va passer donc à une partie peut-être plus intime, parce que cette prière donc porte des fruits dans votre vie, mais peut-être qu'on peut les toucher plus particulièrement pendant les temps de retraite. Donc, vous avez l'habitude depuis fort longtemps pour le coup, donc de prendre des temps de retraite. Vous me disiez donc c'est un lieu où on vit particulièrement donc les exercices, certes dans un cadre précis. Et vous me disiez, on prépare l'émission, que du coup la prière c'est vraiment le lieu d'un cœur à cœur et que on y découvre des consolations. Parfois on peut pleurer, parfois on peut être dans la joie, parfois on a des lumières sur sa vie. Est-ce que vous pourriez un peu éclairer, sans nous dévoiler votre intimité, ce qu'on vit de manière un peu paroxystique dans ces temps de retraite à la lumière de cette pédagogie qu'on essaie de présenter, cette méthodologie entre guillemets qu'on essaie de présenter ce matin?
Bah oui, parce que en fait, qu'est-ce qui m'intéresse dans la prière? Ce qui m'intéresse dans la prière, c'est que ça me touche, c'est que ça change ma vie. C'est pas un principe, on s'en fiche du principe. Sauf que on met en place de nouveau des cadres qui permettent justement d'être rejoint. La retraite, le temps de retraite, c'est un temps particulier puisqu'il y a beaucoup de temps qui est consacré à Dieu, alors sous des formes qui peuvent être différentes. Souvent, c'est dans un espace retiré. On s'extrait un petit peu pour prendre le temps de prier, mais pas toujours. Et moi, j'ai eu l'expérience de faire une retraite qui s'appelle la retraite dans la rue ou la retraite dans la ville, où la proposition, c'est d'être envoyé le matin à partir de 9h jusqu'au soir 18h dans la rue. Et donc, de vivre dans cette agitation, dans ce bruit, dans cette réalité humaine.
Dans ce qui peut vraiment ressembler à un quotidien aussi.
Voilà. Sauf que je ne suis pas dans mon quotidien puisque tout ce temps est consacré à Dieu. Alors, moi, j'ai beaucoup marché. J'aime bien marcher. Je l'ai fait à Toulouse. Et donc j'avais décidé d'aller quelque part. Évidemment, mes pas m'ont amené ailleurs. Et là où ça m'emmène, c'est intéressant. Et par exemple, à un moment de la retraite, plutôt vers la fin, je me suis retrouvé devant le bâtiment d'une collectivité. Voilà, professionnellement, je travaille beaucoup avec les collectivités. Et je me suis retrouvé devant ce lieu qui matérialisait pour moi un conflit. Parce qu'à ce moment-là, j'étais en conflit avec une personne dans cette institution. Et de me retrouver face à ce bâtiment, sans que je l'ai décidé, dans la prière, il y a quelque chose qui s'est passé pour moi d'assez fort et qui m'a, qui a changé un peu mon cœur, qui m'a transformé dans la manière dont je pouvais vivre ce conflit.
C'est-à-dire, donc, vous vous êtes dit, à la faveur de cette retraite et donc de cet exercice bien particulier, les circonstances vous ont conduit donc à faire face à ce bâtiment. Vous y avez vu, en fait, une manière pour Dieu de vous parler, c'est ça? C'est-à-dire qu'on peut aller jusque-là?
Évidemment. Évidemment que c'est ce que je me suis dit.
Alors, quel mouvement du coup intérieur ça fait faire, si vous dévoilez pas tout de plus précisément, qu'est-ce qui s'est passé dans votre cœur et quelle disposition nouvelle vous avez eue après?
Je crois que le mouvement intérieur fondamental, c'est d'essayer de trouver Dieu dans la réalité de ma vie et en l'occurrence dans ce conflit. et qu'il n'y avait pas deux choses, une vie de prière gentille où j'étais exalté, ému, bon, très bien, et ma vie où c'était autre chose. Mais au contraire, de réconcilier les deux. Et donc, c'est pour, ça, pour moi, c'est ça. Comment est-ce que Dieu agit concrètement dans ma vie? Et le fait, à cette occasion-là, si on prend cette anecdote précise, le fait de cette confrontation entre le mouvement que j'avais eu dans cette retraite vers la prière et la réalité de ma vie professionnelle, en fait, a produit pour moi une transformation ou un début de transformation sur la manière dont je pouvais vivre ce conflit et peut-être le désamorcer ou l'envisager autrement.
Ça vous a aidé, du coup ? Enfin, c'est, le but n'est pas forcément que ça soit utile, mais...
Ah si, je crois que le but, c'est que ça soit utile. Sinon, personnellement, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ou alors, je ne comprends pas à quoi ça sert. Ce n'est pas éthéré. Si la prière n'agit pas dans ma vie, alors je peux lire un livre de philosophie. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit.
Pour finir, est-ce que vous pourriez nous faire écho à ce qu'on a dit au début de l'émission ? Les fruits de la prière, c'est que ça augmente en fait le désir de vivre, notre confiance dans la vie. J'ai envie de dire, ça fluidifie notre relation aux autres, ou en tout cas, ça nous emmène vers les autres, ça nous donne envie de les aimer. Est-ce que depuis que vous êtes mis à prier, vous diriez que c'est ça qui se passe dans votre vie ?
Je crois que petit à petit, alors de manière maladroite ou ténue ou bien intermittente, il y a quelque chose de Dieu qui perfuse dans ma vie. Je peux donner une dernière petite anecdote ?
Allez-y, vous avez le reste de minutes.
J'ai dû passer un IRM, qu'importe, rien de grave. Et je me suis retrouvé, on s'occupe de moi, on me fait rentrer dans la salle, et je me suis retrouvé devant ce tunnel un peu inquiétant, ça fait beaucoup de bruit. Et ce qui m'est venu, c'est de prier, non pas pour moi, mais pour tous les gens qui étaient passés sur ce lit, dans cet IRM, pour les personnes qui m'avaient accueilli, qui s'étaient occupées de moi, pour les personnes qui avaient inventé cette machine. Et ça m'a donné beaucoup d'apaisement, en l'occurrence. Voilà, c'est cette manière de laisser autant qu'on peut, et bien sûr, c'est l'histoire d'une vie, comme le disait Yves tout à l'heure, laisser Dieu s'infiltrer dans notre quotidien. Moi, mon boulot, mon seul boulot, c'est d'essayer de me rendre disponible, c'est d'essayer de mettre en place un cadre qui va m'aider. Après, le reste, ça m'appartient pas. C'est Dieu qui me parle. Je suis attentif ou je ne le suis pas. Hein. Je suis disponible ou je ne le suis pas. J'essaye d'avancer dans ce sens-là.
Yves Stossel, le mot de la fin.
Oui, c'était juste pour dire que...
Première mission sur la prière.
En fait, tous ces exercices-là visent ce qu'on appelle aussi chez nous la contemplation dans l'action. C'est-à-dire que ce ne sera plus uniquement la prière au moment où je prends la prière qui sera ma rencontre avec le Christ, mais elle va diffuser dans toute ma vie quotidienne. Et souvent on dit à la fin d'une retraite, mais c'est maintenant que la retraite elle commence. Donc tout ça vise à une relation avec le Christ, non pas uniquement à des moments précis, qui sont les prières, mais la prière dans toute ma vie, et que ma vie devient quelque part une prière.
Eh ben merci beaucoup d'être venu ce matin pour cette première mission Noël dans ma vie. En tout cas, on aura bien compris, entre autres avec l'exemple de Jean-Éric Florin, comment Dieu donc peut nous rejoindre. Un grand merci à vous. Trois pistes pour clore cette émission. Mais rendez-vous est donné donc lundi prochain pour le deuxième volet. Trois pistes. Une application, un site internet, un livre. L'application donc Prie en chemin. On peut en faire la publicité. Voilà, pour vous accompagner dans ce temps de prière. Le site internet coteau-pais.net. Coteau-pais.net avec le 3W devant, et puis un livre, c'est donc Récit du pèlerin, c'est ça, un récit du pèlerin qui est un récit pas autobiographique mais presque de Saint Ignace de Loyola, Pris en chemin, coteau-pais.net, Récit du pèlerin. Merci beaucoup d'être venu ce matin au micro de Vivante Église. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.